Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Romain Oquet.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h.
Et s'est rendu à la première patrouille de gendarmes qui s'est présentée en leur disant « Excusez-moi, je me rends, excusez-moi, je me rends ».
Première nuit en garde à vue pour Valentin Marcon, le fugitif des Cévennes a été arrêté hier. Notre envoyé spécial vous raconte les coulisses de sa reddition sans violence.
La bande de Gaza et le Hamas ciblent de nouveaux raids israéliens cette nuit. Ça n'est pas encore fini, prévient Benjamin Netanyahou.
J-4, le petit café du matin en terrasse, c'est pour bientôt. Oui, mais avec une jauge limitée, de la pluie et un casse-tête pour les restaurateurs. Reportage et interview dans ce journal.
Un week-end de l'ascension aussi pour les joueurs de foot de Clermont-Ferrand. Le club s'envole vers la Ligue 1. C'est une première dans son histoire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La traque aura duré près de 4 jours. La pression a fini par être trop forte pour Valentin Marcon. L'homme de 29 ans, soupçonné d'avoir tué son patron et un collègue, s'est rendu aux autorités hier.
Stéphane Frangy, vous êtes dans les Cévennes. C'est dans une forêt que le fugitif était caché depuis mardi. Il a été interpellé sans aucun échange de tir.
Oui, en fin de journée, alors qu'il était pris en étau entre d'un côté l'unité d'élite du GIGN et de l'autre une équipe avec des chiens pisteurs qui remontaient sa trace, eh bien, dos au mur, le fugitif se dirige alors vers une patrouille et selon le commandant des opérations, le général Broweis, eh bien, il va s'adresser à eux ainsi.
En leur précisant, leur disant « Excusez-moi, je me rends, excusez-moi, je me rends ». Il se terrait, il s'était camouflé, donc dans ce terrain extrêmement hostile. Et on pouvait passer à quelques mètres de lui, probablement que ça a dû se passer, à quelques dizaines de mètres. Et donc quand on l'a récupéré, il était extrêmement affaibli, hagard, il a fallu lui donner à boire et à manger.
Voilà Valentin Marcon qui était désarmé au moment de se rendre aux membres de cette patrouille qui n'était pas prévue dans le dispositif du jour, nous explique le colonel Bertrand Michel de la section de recherche de Nîmes.
Deux gendarmes d'une brigade du sud de Nîmes qui étaient là en renfort, qui initialement ne devaient pas travailler aujourd'hui, mais qui sont proposés pour venir participer à l'opération et qui ont cueilli en souplesse notre fugitif. Pour avoir rencontré cette patrouille tout à l'heure après l'interpellation, je crois pouvoir affirmer qu'ils se souviendront très longtemps de cette soirée.
Et Valentin Marcon qui est maintenant en garde à vue pour répondre d'accusations d'assassinat.
Stéphane Frangy, envoyé spécial dans le Gard pour Europe 1.
Et invité exceptionnel à 8h15, le commandant du GIGN, le général Réti. Il est 8h02 et c'est le début d'une journée à haut risque pour l'exécutif.
Les organisateurs maintiennent leur appel à manifester cet après-midi à Paris en soutien aux Palestiniens.
Un rassemblement pourtant interdit par la préfecture de police à la demande du ministre Gérald Darmanin.
Louis Dragnel, que redoute exactement le gouvernement ?
Eh bien, tout simplement la crainte de ce qu'on appelle les conflits importés. Une crainte bien réelle, puisque selon nos informations, la DGSI comme le renseignement territorial ont mis en garde sur les risques de débordement des manifestations. Entre 6 000 et 10 000 manifestants pro-Palestine et pro-Hamas attendus en province autour d'une trentaine d'actions. Un nombre de manifestants pas très important en soi, mais parmi ces manifestants, des profils bien connus pour leur antisémitisme et leur radicalité ont prévu de faire des coups d'éclat, notamment contre des symboles juifs pour attirer l'attention des médias, principalement à Lyon et à Marseille. Ce qui inquiète le plus Gérald Darmanin, ce sont les connexions très étroites entre les militants pro-Palestine et l'ultra-gauche violente qui assument désormais son antisémitisme. En clair, le gouvernement déjà très contesté sur le régalien ne veut surtout pas voir des images de militants politiques et de sympathisants du Hamas s'en prendre aux intérêts juifs en France et que le conflit au Proche-Orient devienne un sujet politique dans notre pays.
Merci Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Le conflit au Proche-Orient justement avec de nouveaux bombardements cette nuit dans la bande de Gaza. Israël dit avoir frappé un bureau d'opération du Hamas.
10 personnes d'une même famille ont aussi été tuées selon les secours présents dans la bande de Gaza. C'est justement là que s'étaient réfugiés Ahmad et sa mère pour fuir les tirs de roquettes.
Je suis fatigué. Hier, la zone où on habite a été bombardée. Plus de 180 missiles sont tombés en une heure. Des frappes aériennes, depuis des chars et des navires de guerre. Pourquoi on nous bombarde ? C'est une violation des lois internationales. J'ai 23 ans et hier, j'ai cru que j'allais mourir. Il est temps que le monde entende la voix des Palestiniens.
Alors depuis lundi, le bilan est lourd. 130 personnes sont mortes et plus de 1000 ont été blessées. Et ce qui inquiète aussi Julie, franco-israélienne de Tel Aviv, ce sont les tensions entre communautés.
Les problèmes qu'on a de violence à l'intérieur du pays, c'est des choses qui vont durer. C'est une violence qu'on a rarement vue en Israël. qui sont pour moi beaucoup plus graves que ces échanges de missiles qui sont cycliques.
Elle vous inquiète cette situation
Beaucoup, beaucoup. Elle m'inquiète, elle me rend triste, ça me cause beaucoup de peine. C'est pas l'Israël dans lequel je veux faire grandir ma fille, c'est pas le pays dans lequel je suis venue habiter il y a 15 ans. C'est un vrai problème.
Julie et Ahmad, deux témoignages recueillis par Pierre Herbulot pour Europe 1.
Ouais, et cela à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, ça sera demain. Dans 4 jours, Romane, vous pourrez profiter de votre café du matin en terrasse.
Et j'y compte bien, Pierre. Et après 7 mois de fermeture, il faut nettoyer, installer les tables et les chaises, et pas n'importe comment.
La jauge, c'est 50% maximum en terrasse. Le reportage à Strasbourg de Mélina Fachin.
Et ça, il faut le faire.
À l'abattoir café tenu par Charline, c'est le branle-bas de combat à quelques jours de la réouverture.
Oui, ça se prépare dur. Pour l'instant, on a sorti tous les stocks périmés. On a commencé à nettoyer un peu le mobilier de terrasse. On a réparé des tables, on a reponcé, on nettoie le carrelage, les plafonds. Tout, gros nettoyage de printemps.
La jeune femme et sa dizaine d'employés sont heureux de retrouver bientôt leurs clients en terrasse.
De revoir des gens, de retravailler, de revoir une équipe, ouais, on a hâte quand même.
Mais le protocole sanitaire, la jauge de 50% des tables, est un vrai casse-tête.
On peut mettre à peu près 70 personnes, bah là, ça sera 35, je pense. Et puis après, devoir faire la police, on reste assis, c'est les 1 mètre, vous pouvez vous déplacer, on fait pas ça, portez votre masque. C'est pas nos métiers, nous on est là pour que les gens s'amusent, mais bon, on s'acclimate.
L'autre inquiétude, c'est la météo. Il pleut beaucoup en ce moment ici et ce n'est pas censé s'arranger dans les prochains jours. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et pour poursuivre justement cette discussion, nous accueillons Jean Terlon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes en charge de la restauration précisément. Les terrasses vont ouvrir mercredi, mais pas toutes. Hein.
Non, pas toutes. La météo est en train de rentrer en jeu très fortement. Donc c'était prévu, mais malheureusement, ça va jouer.
Mais combien de restaurateurs vont ouvrir exactement? Est-ce que vous avez des chiffres?
J'ai quelques chiffres intéressants de collègues en province. On a le Jura, on a la Vendée, on a le Sud-Ouest. On est entre 20 et 40% qui ouvriront. C'est peu. Donc à part les saisonniers qui, eux, sont plutôt favorables, mais les autres qui ont des terrasses, des vraies terrasses, vous voyez, les saisonniers sont à 60% dans la Vendée et 20% qui n'ouvriront pas, les 20% qui n'ouvriront pas du tout.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de contraintes finalement pour l'ouverture des terrasses?
C'est pas qu'il y a des contraintes, c'est qu'il y a des paramètres qui font que sur le mois de mai, c'est très difficile. D'abord la météo, on voit bien qu'on en a beaucoup parlé et on voit bien que malheureusement, on n'est pas dans un mois de mai ensoleillé. Donc c'est quand même le premier problème. Deuxième problème, la jauge. Et puis vous avez le couvre-feu, donc c'est une mise en jambe pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Mais la vraie réouverture, c'est au moins le 9 juin.
Et puis, on en a parlé sur Europe 1, il y a le problème de la main-d'œuvre. Vous avez du mal à recruter.
Les saisonniers, c'est un bon exemple, qui recrutent en ce moment pour la saison. Ont des offres, mais pas beaucoup de candidats. C'est normal, je pense que les 8 mois qu'on a été fermés ont fait réfléchir beaucoup sur les conditions de travail dans la restauration. Il y en a beaucoup, entre 100 et 130 000, qui ont déjà fait le choix de quitter cette profession pour en trouver une qui leur permettent d'avoir une vie sociale plus épanouie.
Merci Jean Terlon. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Sachez qu'Alain Griset, tout à l'heure à 7h40, qui était notre invité, a promis de vous accompagner, vous, les professionnels de la restauration, davantage encore, en lien évidemment avec tous les services de Bercy. Vous restez avec nous, il est 8h08, dans un instant, WhatsApp change ses conditions d'utilisation, mise à jour, plutôt un ultimatum d'ailleurs pour les usagers. Et puis vous connaissez les rugbymen de Clermont, on va vous présenter les footballeurs. Le club est à 2 doigts de monter en Ligue 1. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
8h10, la suite du journal de Romane Hoquet. À partir d'aujourd'hui, vous serez soumis à de nouvelles conditions d'utilisation si vous avez WhatsApp sur votre téléphone.
Oui, une mise à jour, Pierre, ou plutôt un ultimatum pour les usagers de cette application de messagerie. Sa maison mère, Facebook, aimerait en faire un outil plus commercial.
Alors, on va en savoir plus avec Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste nouvelle techno d'Europe 1. D'abord, que va changer cette mise à jour de WhatsApp?
Alors, ça restera une application de messagerie. Sur ce point, pas de changement. Les messages seront toujours chiffrés et et Facebook ne pourra pas les lire. En revanche, la mise à jour va ajouter des fonctionnalités commerciales pour lier WhatsApp aux autres services du réseau social. Alors par exemple, une publicité sur Instagram pourra afficher un bouton WhatsApp pour que l'internaute puisse contacter le service client de la marque directement. Il y aura également un système d'achat intégré à la messagerie. Et si vous avez un compte Facebook, ces publicités seront ciblées en fonction de vos recherches en ligne.
Clément, est-ce qu'on peut tout de même refuser cette mise à jour ?
Eh bien, sur le papier, oui, mais ça n'a que des inconvénients. Les nouvelles conditions d'utilisation vous seront soumises une fois l'application mise à jour. Si vous les refusez, vous pourrez toujours utiliser WhatsApp, mais avec des fonctions dégradées. Dans un premier temps, vous n'aurez plus accès à votre liste de discussion. Pour lire et répondre à un message, il faudra forcément activer les notifications et vous pourrez répondre aux appels, mais pas en passé. Puis, après quelques semaines, vous ne recevrez plus ni appel ni message. Votre compte existera toujours, mais l'application vous sera inutile. Des contraintes qui ont conduit beaucoup d'utilisateurs à quitter WhatsApp pour d'autres applications sécurisées comme Signal ou Telegram.
Merci pour ces précisions, Clément Le Saff du service éco d'Europe 1.
Et puis ce soir sur Europe 1, grande soirée foot, ce samedi pour la dernière journée de saison de Ligue 2.
Et bientôt la première en Ligue 1 pour Clermont-Ferrand. Sauf cataclysme, le club devrait rejoindre l'élite du football français. Une première dans l'histoire du club.
Et pourtant, Jean-François Perret, c'est tout sauf une surprise pour les supporters déjà fous de joie.
Oui, des supporters qui se sont exceptionnellement donné rendez-vous à l'entraînement des joueurs jeudi matin. La veille, Toulouse avait fait match nul et propulsé quasiment les Auvergnats dans l'élite. Tous les observateurs de la Ligue 2 vous le diront, c'est mille fois mérité. Symbole de cette réussite, l'entraîneur auvergnat Pascal Gastien, il a fait du Clermont Foot l'une des équipes les plus séduisantes du foot français.
On a mis un projet de jeu tous ensemble en place et les joueurs adhèrent. On a envie de montrer une belle image de la ville, de notre football déjà, du club. Et puis ça rejaillit sur la ville aussi.
Meilleure défense et de loin, deuxième attaque grâce notamment au meilleur buteur de la Ligue 2, Mohamed Bayo. Clermont récolte les fruits d'une politique ambitieuse et raisonnée. Le club ne possède que le 11e budget de Ligue 2, mais le noyau de joueurs est stable et les jolis coups sur le marché des transferts font des envieux. Seul chantier encore inachevé, le stade, indigne de la Ligue 1. S'ils valident ce soir leur accession, les Clermontois pourraient élire domicile provisoire à Saint-Étienne.
Merci Jean-François Perret, chef du service des sports d'Europe 1.
Oui, puis c'est l'information de la nuit. La Chine a réussi à se poser sur la surface de Mars.
Oui, Ni Hao Mars, bonjour Mars en mandarin. Le petit robot chinois Zhurong a atterri à 1h18. Une première pour le géant asiatique.
Conquête spatiale chinoise absolument hallucinante. Merci Roman.